Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour vous inspirer et motiver. Je suis votre co-présentateur Max, accompagné de mon cher ami Jeff.
Bonjour tout le monde, salut Max, comment ça va aujourd'hui?
Ça va très très bien et toi-même Jeff?
Ça va bien, ça va bien.
Sans plus attendre, aujourd'hui nous recevons un expert en marketing qui est Product Manager chez Eloquent et qui tient l'influent blog que vous connaissez certainement tous, Conseil Marketing. Donc en direct depuis la France, nous recevons aujourd'hui Frédéric Canvet. Frédéric? Bonjour, comment vas-tu?
Bonjour à tous les deux, c'est super gentil de m'inviter pour ce podcast. Moi j'aime bien, comme je le disais, participer au podcast avec nos cousins nord-américains, parce qu'en fait, c'est vrai que vous avez quand même l'influence du marketing américaine et en même temps l'influence française qui est un petit peu différente, parce que c'est vrai que moi quand je vois du marketing fait par les Américains, c'est un petit peu pushy, c'est très... les mecs sont super fiers de leurs produits, quoi. C'est the best product of the world ever made, yeah. Et en France, en fait, c'est des trucs qui marchent pas du tout. Et en fait, vous, j'ai l'impression que vous prenez un petit peu le meilleur des deux mondes avec du marketing super performant, parce que les États-Unis sont quand même encore, je pense, à un an et demi d'avance de la France. Et vous, au Canada, vous arrivez vraiment bien à mixer les deux, à la fois garder un petit peu ce sérieux et puis cet aspect un peu plus rationnel que nous aime bien en Europe. Et en même temps, vous avez accès aux meilleures techniques et aux meilleurs outils. Et c'est vrai que le fait d'avoir vraiment cette double langue, l'influence anglaise et française, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce qu'en France, tu as beaucoup de marketeurs qui ne maîtrisent pas la langue et ils ont vraiment du mal avec certains outils. Et tous les marketeurs qui sont un peu évolués ici en France, ce qu'ils font, c'est que généralement, ils vont faire des expéditions, soit ils font partie de mastermind. Il y en a pas mal qui ont fait un moment partie de Frenchie, qui ont fait partie des mastermind de Jeff Walker et compagnie. Et généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils vont aux States, ils apprennent des trucs et ils reviennent en France et les appliquent. Et c'est pour ça que généralement, on a un an et demi de retard, quoi. Voilà.
Excellent.
Ça commence bien.
Excellent. Alors Frédéric, je viens de mentionner tout à l'heure ton expertise en marketing. Je pense que tu es quand même assez connu sur tous les continents, à la fois le continent européen, le continent américain, le continent africain aussi. Beaucoup de gens te suivent. Quelqu'un qui aujourd'hui aimerait en savoir davantage sur Frédéric, parce qu'on connaît Frédéric d'un point de vue professionnel avec toute l'expertise, mais d'un point de vue personnel, c'est qui Frédéric aujourd'hui?
Alors, ouais, déjà, je vais peut-être te dire un petit truc. Là, pendant qu'on était en train de discuter, je suis allé sur justement ce SEMrush, donc l'outil qui permet de mesurer comment Google voit un site internet, tout simplement. D'accord. Et j'ai regardé, tu vois, à peu près, je fais à peu près 10 000 visiteurs par jour. Et les Français représentent, les Français de France, représentent 53%, les 54% de mon trafic. Et les Canadiens, c'est à peu près 8%. Donc, tu vois, après, la Belgique arrive beaucoup plus loin avec 3%. Donc, vous êtes quelques petits lecteurs canadiens à côté du blog, et c'est super sympa. Et ça fait donc 12 ans que je tiens le blog, ça fait même plus, 14 ans, 2006. Wow. Et en fait, c'est un petit peu ma petite passion. Boulot de product manager et chargé de projets digitaux, CRM, marketing automation, etc. Et donc, je suis un slasher. Et comme je disais, le blog, c'est un petit peu ma passion, mon laboratoire, parce que j'aime bien tester des trucs. Et il y a plein de choses que je peux pas faire au boulot, je suis un peu frustré. Par exemple, tu vois, avoir une assistante virtuelle à Madagascar, ça j'en ai depuis 4 ans, je pense. C'est quand j'ai relu pour la deuxième fois la semaine de 4 heures de Tim Ferriss que j'ai vraiment pris cette assistante. Et c'est vrai que ça m'a fait gagner énormément de temps. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise il y a 4 ans de ça, en recrutant Sabrina qui est part-time avec moi et donc en fait que je paye à l'heure. mais maintenant c'est quasiment devenu une assistante pour moi. Voilà, donc c'était la petite intro. Alors je te laisse reposer la question.
Oh, on lui passe le bonjour à Sabrina et merci pour son travail en passant. Alors donc oui, ben justement aujourd'hui les gens se posent la question, en tout cas beaucoup de personnes vont certainement se demander, mais oui, il y a cette influence, il y a cette expertise au niveau du marketing, mais d'un plan de vue personnel, parce qu'on sait que le marketing c'est aussi les humains avant tout, donc d'un plan de vue personnel, c'est qui Frédéric?
Alors, Frédéric, bah, ça fait déjà un petit moment qu'il travaille sur le web. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, en fait, j'ai débuté dans le marketing, ça fait grosso modo 20 ans, puisqu'en fait, j'ai eu mon premier job parce que j'ai fini mes études en 99. Et en fait, j'ai commencé par me dire, mais Fred, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Et en fait, en France, à l'époque, on avait le service militaire, donc tu étais bloqué pendant 9 mois. À l'armée, à aller faire des patrouilles, à aller camper par moins 10 degrés en pleine nature. Et puis, je me suis dit, Fred, putain, qu'est-ce que tu aimes bien faire dans la vie? Et j'ai fait un petit bilan de compétences. Il me dit, Fred, ce que tu aimes le plus, c'est le marketing. Jusqu'à présent, en fait, je faisais des études de maîtrise de gestion, donc je faisais un peu de market, un peu de compta, un peu de gestion, un peu de tout. J'avais toujours été généraliste. Je lui dis, Fred, le plus, soit c'est faire du marketing, développer un produit, et ce que tu aimes le plus, c'est faire des jeux vidéo. Donc, faut que tu arrives en fait à trouver quelque chose. Et donc, juste après ça, en fait, j'ai fait un master en marketing, plutôt orienté grande distribution, et je me suis démerdé pour trouver un stage après. Donc, à Paris, mon premier stage, c'était pas un vrai boulot, mais voilà, c'était dans les jeux vidéo. Et donc, j'ai travaillé chez un éditeur de jeux vidéo qui a disparu entre-temps, qui s'appelle Acclaim, et qui faisait des jeux vidéo. Et donc, c'était vraiment top. Pendant quasiment 6 mois, j'étais à Paris, j'étais assistant product manager. Et donc, on testait des jeux vidéo. Il y avait des jeux South Park, des jeux Revolt, des jeux. Il y avait plein de trucs Turok et tout ça sur Nintendo, sur PS, sur PC. Et hop, on testait les jeux, on faisait des argumentaires. Et ça, c'était vraiment top. C'était vraiment ma passion. Et après, en fait, tout simplement, j'ai essayé d'utiliser un petit peu les deux, puisqu'en fait, essayer de faire quelque chose qu'on aime, c'est quand même beaucoup plus efficace. Et je me suis un petit peu, petit à petit, réorienté vers le product management B2B, parce qu'en fait, le domaine des jeux vidéo était assez sinistré en France. En fait, en 2000, en fait, tu as eu vraiment une vague de pas mal d'entreprises françaises de jeux vidéo qui se sont pétées à la gueule. Le marché était sinistré et je me suis plutôt tourné vers les startups e-commerce. Et là, je vendais des logiciels et des jeux vidéo. Et je me suis rendu compte que ce qui était vraiment le plus rentable, c'était le product management B2B. Et là, j'ai travaillé chez un éditeur de logiciels international de logiciels de comptabilité, donc Sage. Je ne sais pas s'il est connu.
Oui, que je
Ouais,
connais.
absolument, bah oui.
Sage. Donc, j'ai bossé quasiment 13 ans chez eux. Donc c'était vraiment intéressant parce que c'était une boîte qui était en pleine croissance. J'ai commencé sur le segment des petites entreprises pour monter aux grandes entreprises et je suis passé un petit peu du discours très jeu vidéo, pratico-pratique, à un discours qui est plus un peu plus métier. Et c'est là que tu te rends compte que selon le secteur d'activité où tu travailles, c'est là que tu peux véritablement avoir des marges qui sont complètement différentes. Quand j'étais en fait dans le domaine des logiciels grand public, là. Mon boulot de product manager à l'époque, j'étais payé, allez, 30 ou 40% de moins que mon job quand tu travailles sur des grandes entreprises. Et c'est pareil sur un marché. Quand tu veux vendre sur un marché, il vaut mieux cibler des gens qui ont un budget, qui ont un moyen, que de cibler en fait des gens qui n'ont pas de pognon, quoi. Mon exemple pratique, c'est à chaque fois tous les gens qui me disent, ouais, moi je vais cibler les TPE, je vais cibler les indépendants, les freelances. Le problème avec ce marché, c'est qu'en fait, généralement, ils n'ont pas de budget pour faire du consulting parce qu'ils veulent des solutions pratico-pratiques. Ils n'ont pas trop de budget pour de la formation ou leur un jour ou deux, pas beaucoup d'accompagnement. Ils veulent des résultats immédiats. Et en fait, tu dois tout le temps courir, courir, courir parce que tu ne peux pas vendre du récurrent. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention quand tu as un marché à vérifier que ce marché est rentable. Si tu veux, par exemple, faire du consulting, il faut te dire, mais est-ce que ma cible est prête à payer? Allez, 400 euros pour une demi-journée de boulot, ou alors 400 euros pour une journée minimum. Si elle n'est pas dans cette cible-là, ça va être compliqué. Tu vas être dans un business model de volume et ça ne va pas être évident de le faire. Après, tu as des choses qui sont contre-intuitives. Par exemple, j'ai réalisé la première formation au blogging en 2009 en France. C'était Blogger comme un pro. C'était la première formation qui existait, formation vidéo en ligne. Et je l'ai coécrit avec un de mes. C'était un autre blogueur comme moi. On se rencontrait, puis on s'est dit, ouais, tiens, on n'arrivera jamais à. Ben, moi, je me disais, j'arriverai jamais à sortir une formation vidéo parce que j'aurais pas le temps. Et Boris, lui, c'est un fan des États-Unis. Comme je disais, il lit tous les trucs en avance et tout ça. En fait, il va faire là-bas des expéditions, il va rencontrer des boîtes. Lui, son domaine, c'était la séduction. Et il a toujours le premier blog français sur la séduction. Il s'appelle Art de séduire. Et donc, en fait, à l'époque, il en vivait déjà en 2009 et il avait un ou deux salariés. Et là, je crois qu'il est, je ne sais plus combien de personnes il a, mais enfin bon, il a monté un vrai business. Et donc, il a quand même réussi à s'en sortir. Pourquoi? Même si c'est des particuliers qui ne sont pas prêts à payer 400 euros pour une demi-journée. Enfin, quoique, si, parce qu'il faisait des séminaires où les gens payaient 50 balles et puis ils faisaient venir, ou 100 balles, et ils faisaient venir 20, 30, 40, 500, 50 personnes dans une salle. Mais il a quand même réussi parce que les gens avaient un problème urgent, important, solvable, et ils étaient vraiment prêts à payer. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver toujours un business là-dessus. Si les gens ne sont pas prêts à payer ou s'ils n'ont pas d'argent, ça ne marchera pas. Par exemple, toi, j'ai un pote qui avait monté en fait un site qui s'appelait Trouver un job et qui s'adressait en fait aux chercheurs d'emploi qui voulaient en fait trouver un boulot. Et c'est vrai que y a beaucoup de monde qui voulait trouver un boulot. Il y avait un vrai marché, mais sauf que les gens n'avaient pas forcément un budget. Et pareil pour le coaching, toi, tu as pas mal de gens qui se mettent dans le coaching pour aider les gens à trouver leur sens, leur carrière et tout ça. C'est vrai que c'est intéressant, mais les gens n'ont pas forcément un budget important. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux cibler sur non pas les gens qui savent pas un petit peu ce qu'ils veulent faire, etc., mais des gens qui sont en réorientation, c'est-à-dire qu'ils sont partis d'une boîte avec un petit pactole où ils ont été licenciés, puis ils ont un peu d'argent, ou ils sont partis avec une rupture conventionnelle en France. Et là, ces gens-là ont de l'argent et tu peux les aider, etc., parce qu'ils ont un budget. Voilà. Donc moi, je dirais, ce qui est important de faire, c'est identifier un marché avec un besoin urgent, important et solvable.
Excellent. Et là, on voit l'expert. Mais moi, j'ai une question. Quand Frédéric était tout jeune, à quoi est-ce qu'il rêvait?
Ah ben, il rêvait aux jeux vidéo et à Internet. Tu vois, c'était vraiment ça. Après, il y a beaucoup de gens qui disent ne suis pas ta passion. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu suis ta passion, tu ne vas pas forcément gagner beaucoup d'argent. Un autre exemple, j'ai une de mes collègues de bureau, qui est Armel, dont la mère, en fait, est prof d'anglais. Non, prof d'espagnol ou d'anglais. Non, d'anglais, je crois, elle doit être prof d'anglais. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle aime bien faire des langues et elle se fait une petite association. À la fin, elle a en fait une association, ce n'est pas une entreprise. Elle a pris un statut d'association en France, donc c'est quelque chose qui est plutôt non commercial. Et en fait, elle bosse, elle trime, elle fait des heures et des heures. Elle a des cours, mais elle ne gagne pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas réussi à switcher d'une mentalité passion à une mentalité business. Et moi, en fait, c'était un gros problème. Pendant plus de 10 ans, j'ai vraiment eu ce problème de switch, de passer d'une passion. C'est-à-dire, moi, le blog, je l'ai créé parce que c'était un carnet de notes où je notais des trucs parce qu'avec des potes, on allait monter une startup qui n'a jamais été montée. Mais je notais tout sur le blog. Tiens, comment référencer un site web, comment faire une fiche produit, comment faire ceci. Puis j'ai noté tout parce qu'on allait d'appart en appart. On était 4-5 et puis on était 3 en fait. Et en fait, on allait d'appart en appart pour travailler le soir après le boulot sur le projet. Mes deux potes étaient développeurs. Moi, je faisais le market. Et en fait, je notais tout parce que comme ça, je n'avais pas besoin d'emmener sur des fichiers Word. C'est ça. En fait, conseil marketing, mon blog, il vient de là en fait. À la base. Donc, en fait, c'était partager de l'info et donner aux autres. Et en fait, passer du switch, tiens, j'ai une passion à un, je vais montrer un business, sincèrement, c'est compliqué. En particulier si tu viens du salariat, si tu es habitué à faire des heures et si tu es habitué en fait à faire un travail, c'est complètement différent. Et tu vois, j'avais un de mes collègues là, qui est développeur, qui est passé freelance. Et en fait, il a eu du mal à passer du statut salarié à freelance. Donc, il avait monté sa boîte. Eloquent était toujours son principal client. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que il disait, oh, oui, j'ai travaillé 8 heures aujourd'hui sur la boîte. Ouais, tu as travaillé 8 heures, mais à fond, tu n'as pas fait autre chose. Ah si, je me suis formé, tu vois, là-dessus, Eloquent va me demander de faire ci. Donc, je commençais à faire ça. Et puis, en fait, il avait encore cette mentalité de salarié où il faisait des heures et il n'osait pas en fait facturer des choses qui étaient en fait du travail, ou alors il disait non mais ça m'aide à moi, ou alors il faisait des choses qui étaient totalement inutiles. Il disait ouais, je vais m'entraîner, je vais créer moi-même mon propre CMS pour mon site internet. Et il me disait ouais, ça va comme ça m'entraîner à programmer tout ça. Je dis mais non, mais t'es malade, t'as vu le temps que tu vas passer à créer ton site internet avec ton propre CMS, ça ne sert à rien. utilise plutôt WordPress, un truc de base, et après, utilise ce temps-là pour faire autre chose, parce que tout ce que tu fais là, ce n'est pas de l'argent qui va rentrer, ce n'est pas du temps que tu vas faire à faire, par exemple, ta compta ou avec ta famille. Donc, en fait, fais attention à ça, réfléchis bien à ce qui est vraiment utile, et parce que j'ai écrit le livre Le Gros Hacking, donc un livre sur les techniques Gros Hacking. Là, on est à la V2, on a fait la V1 il y a 3 ans, 2017, septembre 2017. Et là, en fait, cette année, en mai ou avril 2020, on a sorti la V2, réécrit à peu près 30-40% du bouquin. Et donc, en fait, dans cette V2, j'ai rentré un truc qui était important que j'ai découvert. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, hein, mais c'est un des points du gros hacking, c'est d'avoir une North Star métrique, une étoile du Nord. Et cette étoile du Nord te permet en fait de savoir ce que tu dois faire et d'avoir un filtre. Mon exemple, en fait, moi, pour conseilmarketing.com, donc je mets ça pour mon activité perso surtout, hein, j'essaye de le mettre à mon boulot, mais c'est plus compliqué parce que c'est pas moi qui manage toute la team. Et donc, en fait, je me dis, OK, Fred, quelle est ta North Star métrique? Et pendant très longtemps, moi, c'était le trafic du site internet. Je regardais tous les jours combien j'ai fait mes visiteurs, combien de leads je générais, mes formulaires, et combien de chiffre d'affaires je faisais. Si j'avais trois trucs comme ça. Puis des fois, je voyais, oh putain, mon trafic est en baisse, vite, il faut que j'écrive des articles. Oh putain, j'ai fait que 50 leads aujourd'hui. Oh putain, faut que je fasse tout de suite une publication sur les réseaux sociaux. Et puis je me dis, oh merde, putain, j'ai pas fait mon objectif de chiffre d'affaires ce mois-ci. Ah, faut que j'envoie une promo, un email. Et en fait, je partais un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Alors tout le temps, hein, ça allait à peu près dans le même sens, mais tu zigzagues. Et je me suis dit, non, mais Fred, le concept du gros hacking te dit que tu dois avoir une North Star métrique, quelque chose qui va te guider. Et je me suis dit, non, ce qui est le plus important, c'est le chiffre d'affaires. Les visiteurs, le nombre de leads, c'est pas le plus important parce que tu vas générer parfois des leads qui sont des étudiants, des gens qui n'ont pas les moyens, qui sont hors cible. Et donc, tu dois plutôt te concentrer sur le chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui va vraiment t'aider pour le chiffre d'affaires? Et en faisant ça me permet d'une part, de me dire qu'est-ce qui va te permettre de faire du chiffre d'affaires et aussi d'avoir un filtre. Régulièrement, en fait, les gens me disent, enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de propositions. Mais vraiment, dès que tu as un blog un petit peu important, tu as beaucoup de propositions pour faire bah, des interviews comme ça, faire en fait écrire des billets, ou des potes à toi qui disent, tiens, est-ce que tu peux faire la promo de mon machin, blablabla, blablabla. Ou enfin, bah, t'as vraiment ou alors tu lis un truc, tu vois une newsletter, tu vois un truc, ah putain, c'est un article sympa, c'est un truc sympa, ah, je suis sûr que je peux faire mieux, je vais faire un article de blog plus sympa sur ce sujet-là. Et en fait, tu vas te disperser. Tandis que si ta North Star métrique te dit, c'est le chiffre d'affaires, tu vas dire, est-ce que ce qu'on me propose là va me permettre de faire du chiffre d'affaires? Oui, non. Si c'est non, je le mets de côté. Et par exemple, tu vois, tous les soirs, en fait, je souhaite les anniversaires sur Facebook. Et c'est vrai que c'est des contacts plutôt pro, hein. J'ai atteint la limite des 5 000 amis depuis longtemps sur Facebook. Donc j'en rajoute, j'en supprime, etc. de temps en temps. Et en fait, tous les soirs, je me passais à peu près 5-10 minutes à faire les bons anniversaires, hein. Aller sur le compte Facebook, aller bon anniversaire, machin, des gens que je connaissais ou pas, enfin personnellement, hein. Parce qu'en fait, je me disais, bah tiens, c'est créer du relationnel, c'est important, etc. Avec ma North Star métrique, je me suis dit, mais Fred, tu es en train de passer tous les jours 10 minutes, donc ça veut dire une heure, plus d'une heure toutes les semaines, alors que j'ai pas beaucoup de temps, hein, parce que toi, j'ai deux enfants, j'ai mon boulot, j'ai le blog, j'ai ma tout ça. Et je me dis, mais Fred, tu passes tous les jours 10 minutes, 5 à 10 minutes, et finalement, ça t'apporte pas grand-chose. En fait, soit tu as une possibilité, soit tu te dis, non, ce que je fais, ça sert à rien, je l'arrête. Soit là, tu dis, hey, comment je peux faire pour que la chose que je fais va me permettre en fait d'atteindre mon objectif? Et je me suis dit, bah tiens Fred, ce que tu vas faire, au lieu de souhaiter un simple anniversaire à tout le monde, tu vas leur en fait leur faire un bon anniversaire plus une promo spéciale anniversaire. C'est-à-dire que tu vas leur faire 80% de réduction sur tes formations et tu dis voilà, c'est l'offre anniversaire, ça l'a uniquement un mois. Et grâce à ça, en fait, bah, ça m'a mis dans l'optique, ok, je suis aligné avec ma North Star métrique, mais en plus, en fait, j'ai à peu près allez, 2, 3, 4, 5% des gens qui commandent, alors que c'est des gens qui n'auraient jamais commandé et c'est un moyen pour moi de les mettre dans une dynamique d'achat. Et c'est vrai que les gens disaient, ah ouais, je ne connaissais pas, merci, c'est sympa. Tu as plein de gens qui disent non, ouais, c'est pas, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps, etc. Mais en fait, ça me permet de mettre une dynamique de North Star métrique. Et pareil, tu vois, parfois il y a des gens qui me disent, tiens Fred, j'aimerais bien t'écrire un article sur mon blog. Moi, je le fais quasiment plus. Je dis, bah non, voilà, moi j'ai une North Star métrique, j'ai ma vision et mon positionnement, c'est le marketing B2B. Je reste là-dessus. Je dis, bah non, désolé, je peux pas. Alors que des fois, j'aurais pu dire oui. Ou alors, je dis, je veux bien qu'on parle de ça, mais plutôt dans telle optique. Ou alors, je mets un lien d'affiliation qui me permet de générer du business derrière. Donc voilà. passer du temps à y avoir une North Star métrique, sincèrement, ça permet d'être mieux focus et de travailler en fait sur ses priorités. Et encore une fois, dans cet esprit business et pas dans cet esprit salarié où tu passes du temps.
Justement, tu as parlé de ton blog qui était ton laboratoire. Il a commencé comment et pourquoi il a commencé?
Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai commencé en 2006 sur blogueur.com parce qu'en fait, avec trois potes, on voulait monter une start-up. Et donc, ben voilà, moi, je devais m'occuper du market. Et à l'époque, en 2006, en fait, ben, t'avais rien. Sur Internet, il n'y avait rien du tout. Donc, tu avais juste des bouquins et puis tu avais ta propre expérience. Et donc, moi, j'étais en train de préparer le site web, j'étais en train de justement monter un blog pour ce site-là, pour préparer en fait la sortie du produit. Et en fait, petit à petit, en fait, mes potes ont un petit peu lâché le projet parce que, en fait, c'est le problème de certains développeurs, ils veulent tout le temps refaire la roue. Et donc, à chaque fois, ils voulaient tout refaire, la base de données, ils voulaient refaire le site web, ils voulaient tout. Enfin, genre, je disais, mais non, mais prenez des briques, prenez des briques. Et non, 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 on va faire, moi, je suis capable de faire mieux, tu vas voir, c'est vachement plus sympa. En fait, à la fin, bon, le projet est un peu tombé à l'eau. Hein. Et moi, en fait, bah, le blog conseil marketing que j'avais créé pour mon aide-mémoire, mon vide-poche, bah, finalement, il est resté. Ça m'a fait plaisir de rentrer des trucs. Et puis, à l'époque, en fait, en 2006, quand tu crées un article de blog avec vraiment de la valeur ajoutée, avec vraiment des exemples, et ben en fait, tu cartonnais. Alors maintenant, c'est devenu totalement impossible. Le niveau, c'est vraiment élevé. Par exemple, tu vois, il y a, ouais, il y a même 5 ans, 5 ans de ça, tu pouvais faire un article de 700, 1000 mots pour pouvoir espérer ressortir dans les recherches. Maintenant, dans le domaine du marketing, allez, 1500 mots, c'est vraiment le minimum. Et pour espérer ressortir bien sur les moteurs de recherche, moi, j'essaie toujours de faire des articles de 2000, 2500 mots. Et avec ça, en fait, tu peux vraiment ressortir. Et moi, je trouve que vraiment, le marketing est devenu hyper technique, est devenu hyper complexe. Même moi, tu vois, j'ai du mal à tout maîtriser. En fait, on parle souvent en gros hacking, dans le bouquin, j'en parle, c'est le T-shape. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir, il faut que tu connaisses un peu de tout et puis que tu sois plutôt bon dans un ou deux secteurs. Et en gros hacking, moi je connais pas mal de gens qui sont T-shape. Par exemple, moi je suis plutôt orienté content marketing, plutôt on va dire aller un peu de SEO, mais c'est pas, je suis pas hyper technique en SEO, mais je suis content marketing, rédaction de contenu, vidéo, communication. Et voilà quoi, je connais un petit peu d'AdWords, ouais, je fais un petit peu de trucs, un petit peu de Facebook Ads, mais je suis pas très bon là-dessus. Et par contre, je connais des potes qui sont hyper bon en technique. C'est-à-dire que ce sont des. Je connais un pote, Fabien de PixGeek, hein, au Pix Network, ou même Mickaël Monjour ou Luc Moussier. En fait, ce sont des gens qui sont pas tout à fait T-shape, mais ils sont super pointus. Par exemple, tu vois, Fabien, il est hyper SEO. Mickaël Monjour, mais c'est un développeur et il développe ses propres outils. Et puis Luc, il est plutôt sur aussi l'optimisation SEO. Donc en fait, eux, ils sont très bons dans un domaine et ils connaissent un petit peu des autres. Et donc, ça devient hyper technique et c'est pour ça que moi, je me dis que c'est encore possible de réussir maintenant sur Internet parce qu'en fait, c'est devenu tellement pointu, tellement précis, il y a tellement de canaux que tu peux te débrouiller si tu es bon dans un domaine. Il y a plein de gens qui sont bons, par exemple, en Facebook Ads, en Google Ads maintenant. Ou alors en SEO, tu peux te démerder. Ou alors sur YouTube. Enfin bref, tu as différents moyens de réussir. Il faut juste choisir le bon canal et faire un focus là-dessus.
Est-ce que selon toi, ton blog qui a bon maintenant qui a 14 ans, est-ce que c'est toujours le bon canal selon toi?
Alors, oui et non. Alors, je dirais non. Pourquoi non? Parce que tout simplement, les recherches sur Google vont diminuer au fil du temps. On voit clairement, hein, les gens, en fait, ont de plus en plus, les jeunes en particulier, ont de plus en plus de mal à lire du contenu à valeur ajoutée. Moi, je le vois, j'essaie d'écrire du contenu long pour plaire à Google et pour avoir un dossier soigné, une référence, etc., etc., et avoir des contenus, en fait, qui durent tout le temps. J'essaie de ne pas faire des contenus d'actualité. Et bien, en fait, on voit bien que ça va décliner. Parce que moi, j'ai plein de gens et des jeunes en particulier qui me disent non mais j'ai pas le temps de lire, oh, mais c'est trop grand, oh,
Oui,
non.
parce que quand on parle de 2000 mots, on s'entend que maintenant la jeunesse avec Instagram, TikTok, Snapchat, les autres, on est dans l'instantané.
Exactement, et c'est trop d'infos, c'est trop complet. Et donc en fait, voilà, pour moi le blogging va disparaître, enfin va réduire. En fait, pour moi c'est une baisse qui est progressive. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps aussi, il y a plein de gens qui abandonnent. Tu vois, moi j'ai en fait avec l'écriture, j'écris trois bouquins en 3 ans là, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup d'énergie et j'ai pas pu me faire un focus sur le blog. Donc en fait, j'ai dû mon trafic a un peu baissé. Et ensuite, là, quand j'ai pu finir les deux bouquins et reprendre un petit peu sur le trafic, tout de suite, j'ai repris du poil de la bête parce que j'ai fait aussi plus d'optimisation. Donc en fait, j'utilise Rank Math SEO qui me permet en fait d'aller optimiser pas mal de trucs. J'ai optimisé la vitesse. Enfin, il y a vraiment plein de trucs à faire, c'est beaucoup plus technique. Mais donc le référencement, parce qu'un blog, c'est le référencement Google, hein. Il n'y a pas d'autre chose à se dire, c'est vraiment le référencement Google. Et en fait, si tu veux choisir le blogging, tu vas déjà t'exclure une partie de la cible, on t'a parlé des jeunes, et ensuite tu dois te dire, mais il faut que je sorte sur les bons mots-clés. Donc tu dois plutôt être focus. Et par exemple, pour conseil marketing, j'étais pendant des années conseil marketing, c'était blog du marketing en général. Et là maintenant, j'ai fait un focus en faisant marketing B2B. Et maintenant, moi, si je devais me relancer une nouvelle fois, bah, je ne ferais plus marketing B2B, choisirais, enfin, j'ai trois thématiques, hein. Moi, je choisis en fait l'expérience client, parce que c'est mon boulot, hein, l'expérience client. Je choisirais le growth hacking et je choisirais éventuellement aller. Le blogging, mais en fait je serais beaucoup plus focus sur certaines niches parce qu'en fait tu peux plus être généraliste comme moi. Et moi c'est un problème souvent que j'ai avec le blog, c'est que les gens se disent mais conseil marketing c'est la référence dans quoi? Les gens maintenant ils veulent, c'est un peu comme pour les chanteurs. Pour les chanteurs, en fait, bah, généralement, tu as une référence. Tu dis, mais hey, quel est le meilleur chanteur de rap? Quel est le meilleur chanteur de, je sais pas, de hip-hop? Quel est le meilleur chanteur de, je sais pas, de musique classique? Et en fait, les gens disent, oh, ouais, c'est celui-là, celui-là et celui-là. Et en fait, on arrive à une starification des professions. Et dans le marketing, c'est pareil. Si tu dis, bah, tiens, quel est le meilleur spécialiste de Google, de Facebook Ads? Facebook Ads, tu diras, tiens, Danilo Duchesne, il gaspe pas mal, ouais, il fait partie des premiers. Tu dis, tiens, quel est le meilleur gars sur la vente? Ah, tu peux te dire, ah, je ne sais pas, c'est peut-être Michael Aguilar. Ou, attends, comment il s'appelle? Oh, il y en a un autre qui est vraiment fort. Bref, Victor Cabrera qui est bon aussi. En fait, tu arrives à une starification, il faut être capable d'être dans ce top, de se dire, tiens, le marketing B2B, ah, c'est qui le meilleur, quoi? Et donc, le blog est un moyen de créer de la crédibilité et aussi de bouquins. Il y a beaucoup de gens maintenant qui se mettent à écrire des bouquins parce que créer un bouquin, en France en tout cas, ça permet en fait d'avoir un statut d'expert. Tu vois, par exemple, mon bouquin, le growth hacking que j'ai écrit il y a 3 ans, on l'a coécrit à deux. Encore une fois, tu vois, c'était le même principe. Je me disais, merde, en fait, il y a Duno qui m'a contacté, c'est un éditeur français, qui m'a dit, tiens, on voudrait vous contacter pour écrire un bouquin sur le blogging. Je leur ai dit, non, un bouquin sur le blogging, moi, en fait, le blogging, c'est juste un canal. Je veux pas faire un truc, gagner de l'argent avec un blog. Que ça ne me sert à rien. Par contre, j'aurais dit, il y a une thématique qui monte fort. Moi, ça m'intéresse un peu. Je regardais un peu les premiers trucs, c'est le growth hacking. Ils m'ont dit, ah ouais, bon, on va regarder. C'est vrai qu'ils ont vu qu'il y avait un peu de tendance là-dessus. Et donc, j'ai écrit le bouquin, je me suis vraiment spécialisé, j'ai passé du temps à me former, à lire d'autres trucs, etc., etc. Et c'est comme ça, en fait, que je suis devenu un truc. Mais j'ai pas une référence, mais je suis devenu connu sur ce sujet-là. Et c'est devenu un point fort du blog là-dessus. Et donc, voilà, c'est en se spécialisant qu'on arrive en fait à sortir du lot. Et donc, moi, j'invite tout le temps les gens plutôt à se dire, sortez pas un énième blog sur le marketing, mais essayez de trouver un truc qui a de la valeur. Après, il faut aussi non plus de pas trop. Encore une fois, il faut s'adresser à un marché qui a une demande et qui a un certain volume. Par exemple, j'ai quelqu'un là qui m'a dit, tiens, je vais lancer un blog sur Google Analytics. Et je lui dis, bah, ouais, ça me paraît une bonne idée. Mais je lui dis, est-ce que les gens sont prêts à payer pour avoir de l'optimisation Google Analytics? Est-ce qu'il y a un vrai marché? Est-ce qu'il y a un vrai volume? Et c'est vrai qu'il s'est rendu compte au bout de quelques mois que c'était un peu trop technique. Les gens cherchaient pas en fait à payer ou avoir autant de spécificités sur Google Analytics parce qu'ils exploitaient qu'une petite partie ou alors faut être Google Analytics plus d'autres choses sur les commerces par exemple l'optimisation de l'UX.
Excellent. Et justement, moi, je regarde toute cette expertise-là, toutes ces expériences que tu nous partages, tout ce flot de connaissances. Si j'en viens aujourd'hui à te demander, Frédéric, avec toute cette belle carrière que tu as eue, que tu as encore et qui est encore à venir, quelle est ta plus belle expérience, en tout cas, du moins, quelle est la réussite? Si je peux appeler ça ainsi, quelque chose qui te fait le plus plaisir, ce serait quoi pour toi aujourd'hui?
Alors, je dirais, c'est mes deux filles. Mais ça, c'est plutôt du personnel. Alors, c'est pas facile, en fait, parce que, tu vois, Quand tu as monté un blog, c'est monter une entreprise. C'est réussir à perdurer dans la durée et continuer
D'accord.
à être motivé, à vouloir le faire. Et pour cela, en fait, je pense ce qui est le plus important, c'est les routines. Moi, j'essaie vraiment de me faire des routines et c'est vraiment la clé du succès. Par exemple, je me dis, tous les lundis ou mardis, enfin une fois par semaine, il faut que j'ai un article de blog. Et que j'ai un article de blog qui est intéressant et que je me dise moi-même, waouh, Fred, si j'avais lu cet article-là, eh ben, moi-même, j'aurais appris quelque chose. Et tant que je n'ai pas cet aspect, waouh, Fred, ah, même moi, j'ai appris quelque chose, parce que non seulement j'écris un article, j'essaie de réfléchir un peu, et je vais faire aussi de la recherche documentaire à l'extérieur. Donc voilà, donc qu'est-ce que je suis le plus fier? Bah, c'est quand, en fait, il y a quelqu'un qui me dit, ah ouais, Fred, ah, j'ai appris un truc, c'est vachement sympa. Et
Mais si je veux revenir sur le Frédéric, c'est un passionné du marketing, on l'entend dans ton partage. Sinon, c'est quoi tes autres passions? Est-ce qu'il y a des choses qui t'animent justement au-delà de ton travail de tous les jours?
Les jeux vidéo, j'en fais quasiment plus. Toi, je jouais un peu de Clash of Clans de temps en temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a mon neveu qui m'a demandé un peu de l'aide à un moment donné sur un jeu vidéo. Et j'étais pris dedans et j'ai commencé à me remettre dessus. Mais les jeux vidéo, non, j'ai quasiment arrêté parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que ma passion, c'est justement devenu mon blog. Il y a plein de gens qui me disent, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu te balades? Est-ce que tu fais des choses? Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt écrire mon blog. Et vraiment, pour moi, c'est une passion. C'est une vraie passion, c'est une fierté. Après, il faut faire
Complètement.
attention. Et justement, avec mon coach, ça, si c'est quelque chose que je vous recommande de faire, c'est qu'en fait, à peu près une fois par mois, même une fois par mois, pendant la pause déjeuner, en fait, avec Raphaël, on se co-coach. C'est-à-dire qu'en fait, on passe 45 minutes à parler de mes préoccupations et 45 minutes à parler de ses préoccupations. Et donc, en fait, grâce à ça, en fait, ça permet d'avoir une vision externe et d'essayer d'un petit peu avoir quelqu'un qui va te donner des conseils sans être trop, enfin, en étant un petit peu distant, en prenant de la hauteur. Et justement, il m'a dit un jour, Fred, mais attends, est-ce que le fait d'avoir ton blog, c'est pas en fait que tu cherches un peu de la reconnaissance et que tu cherches en fait à être reconnu ou à régler je sais pas, un truc personnel ou un truc comme ça. Et c'est vrai que tu dis, ouais, peut-être qu'il y a une notion d'ego. Et donc, il faut faire attention à tout ça, d'essayer de pas trop surcompenser un domaine par l'autre. Moi, je connais plein de gens qui sont super bons dans des associations, dans des trucs, parce que dans leur boulot, en fait, ça se passe moyennement ou ils sont pas très contents. Et moi, c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais très frustré de mon boulot parce que quand je travaillais chez Sedge, hein, l'éditeur international, et ben en fait, j'étais frustré, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Et en fait, le blog me donnait cet espace de liberté et cet espace de communication où j'étais libre et je pouvais vraiment faire tout ce que je voulais. Voilà, donc ma passion, en fait, c'est simple. J'essaye d'équilibrer du mieux possible en fait ma vie perso, ma vie pro. Et donc, j'essaye de gérer du temps de prendre du temps avec mes filles. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'en fait, quand tu as un boulot et que tu as un autre boulot derrière avec le blog, c'est pas facile parce que tu as toujours plein de trucs, tu penses à plein de choses. Et cette année, j'essaye de faire un effort de me dire, essaye de vivre l'instant présent. C'est-à-dire que quand tu es avec tes filles, tu ne penses pas du tout au boulot et tu essayes d'être à 100% et tu essayes de ne pas être préoccupé par les autres choses. Et c'est comme ça, être focus tout le temps sur un truc. Et autrement, au niveau passion, non, tu vois, moi, ce qui m'intéresse, quand j'ai un petit peu de temps libre, bah, je publie un truc, je tweet, je like, etc., etc. Donc, pour moi, en fait, c'est tout simplement une passion.
On arrive, nous, maintenant à ce qu'on appelle la minute signature, qui est une minute où tu nous partages une phrase d'inspiration, de motivation. Qu'est-ce que tu veux partager avec nous actuellement, avec tous ces
Alors,
changements qu'il y a, bien entendu, dans le marketing?
moi, en fait, s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est en fait, c'est une de philosophie du growth hacking que je ressors dans le bouquin, c'est plutôt fait plutôt que parfait. Et vraiment, c'est une mantra en tant que growth hacker. Il y a plein de gens, en fait, qui n'osent pas se lancer, qui attendent d'avoir un truc parfait, etc. On parle toujours de l'expérience opérationnelle. Le problème de faire ça, c'est qu'en fait, on repousse. Et je connais plein de gens qui repoussent. Non, mais mon idée n'est pas parfaite. Ah non, mais j'attends un peu. Ou attends, j'attends de faire ça. Il faut que je réfléchisse un peu, etc. Non, il faut que tu essayes et que tu améliores au fur et à mesure. C'est moi, cette philosophie, avant qu'il y ait le growth hacking, qui soit vraiment. Ben, le truc qui soit véritablement dévoilé par Ryan Holiday, c'est cet aspect efficacité maximale. C'est-à-dire que tu fais un truc, c'est pas grave. Si c'est pas exceptionnel dès le départ, au moins tu te lances et tu fais le truc. À chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'essaie de le faire comme ça. Ou alors de travailler avec une autre personne qui est complémentaire. Le premier bouquin, le gros hacking, tu vois, je l'ai écrit, co-écrit avec une autre personne parce que j'ai cherché d'abord à avoir quatre personnes. On devait être quatre à écrire le bouquin. Il y en a un qui m'a lâché tout de suite, l'autre qui m'a lâché après, et l'autre qui m'a dit non, moi, je ne peux pas, mais par contre, je peux te recommander une autre personne. Et donc, en fait, et la formation, première formation vidéo, c'était ça aussi pareil. C'était, je me disais, mais j'y arriverai jamais. Donc, commencez vous-même à faire quelque chose, commencez petit, mais lancez-vous. C'est vraiment important. Lancez-vous, faites plutôt que parfait, et vous améliorez les choses au bout d'un moment.
Fait plutôt que parfait. C'était, on peut rien demander de mieux pour terminer l'entrevue. Donc, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci, Max. Toujours un plaisir.
Partagé. Merci, Jeff.
Merci. Donc, alors, vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes. On parle aussi de LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23 plus 1 podcast. Alors, encore une fois, merci à tous d'être avec nous et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23 plus 1 podcast. Merci. À bientôt.